Alors bonjour à tous et je voudrais d'abord remercier mes hôtes ici pour leur invitation. Je voudrais aussi remercier le dernier orateur pour sa fougue européenne, parce que ça c'est bien quand on va en France d'avoir des gens qui ont la fougue européenne. Alors donc, je vais essayer de vous donner d'abord quelques éléments de contexte, hein, un peu pour aussi répondre à quelques pistes qui ont déjà été lancées. Et puis ce que je ferai après, c'est essayer de vous donner quelques éléments comment dirais-je, d'information sur ce que l'on propose actuellement pour les sciences sociales et humaines. Alors, quelques éléments de contexte. Alors, je vais d'abord commencer par parler de moi-même. Comme ça, je sais en parler plus ou moins bien. Donc, vous avez vu que mon nom, c'est Philippe Kérodrin. Je travaille à la Commission européenne. Bonjour, Michel. Je travaille à la Commission européenne qui, vous savez, est principalement installée à Bruxelles. On a plus ou moins 32 000, 33 000 personnes qui travaillent à la Commission européenne, réparties en fait à travers le monde, hein, et pas simplement à Bruxelles. Et à l'intérieur de ça, vous avez une direction générale de la recherche qui a plus ou moins 1 700 personnes. Donc, ces gens-là donc s'occupent de définir la politique de la recherche, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans les sciences sociales humaines, l'environnement, la santé, etc. Et donc, à l'intérieur de cette maison de 1 700 personnes, vous avez une unité donc, qui est en charge spécialement des sciences sociales et humaines. Et donc, moi, je suis maintenant depuis quelques années dans cette unité-là qui s'occupe de cela, où ça représente plus ou moins 22 personnes hein, qui travaillent dans ce domaine-là. Et notre principal travail, c'est d'une part de définir ce qu'on appelle les programmes de recherche ou les topics dont parlait Olivier. Et puis l'autre chose, surtout que l'on fait beaucoup, c'est d'essayer d'utiliser cette science, d'utiliser les résultats de la recherche pour essayer de les mettre soit dans le débat public, soit vers ce qu'on appelle les policy makers. Donc on essaie de faire en sorte que les résultats de la recherche soient ensuite utilisés par différentes personnes dans le cadre de leur politique. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur le chômage des jeunes, on travaille sur la radicalisation, on travaille également sur les différents modèles de croissance, et on essaie donc de nourrir la pensée politique et l'action politique à partir de cela. Alors, moi-même, je suis un ancien chercheur, donc j'ai publié il y a bien longtemps en sciences politiques, et donc j'ai fait un parcours qui, à travers la Commission européenne, m'a fait connaître différentes choses avant de retrouver donc, les sciences sociales et humaines il y a plus ou moins maintenant 7 ou 8 ans. Donc au moins, ce que je peux prétendre avoir, c'est au moins une connaissance un peu historique de votre situation, puisque moi-même, donc, j'ai été chercheur, j'ai publié, j'ai collaboré avec des partenaires étrangers, et donc j'étais, comme disaient les Anglais, un peu de l'autre côté de la barrière. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que je voudrais vous dire avant de passer à travers cette présentation, la deuxième chose qui est importante, c'est effectivement, c'est que les Français ne sont pas du tout représentés au niveau européen, au niveau des programmes européens, à la mesure de leurs talents et de leurs capacités. Si je regarde simplement les résultats du programme cadre numéro 7, qui était de 2007 à 2013, sur le thème qui était le thème vraiment des sciences sociales et humaines. Les champions, c'était les Anglais, qui avaient pratiquement 20% du financement, 20% de la coordination des projets, etc. Mais ensuite, vous aviez les Allemands, puis vous aviez en général les Hollandais. Sachez que, par exemple, l'une des universités qui récupère le plus d'argent au niveau européen, c'est l'université de Utrecht. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les gens à l'université d'Utrecht, mais sachez que les gens de l'université d'Utrecht sont très très bons pour aller au niveau européen et ramasser des fonds européens. Mais également les Belges. Les Belges sont excellents dans cette concurrence, dans ce jeu-là. Et mieux évidemment les Belges flamandophones, enfin néerlandophones, pardon, que les Belges francophones. Donc la KUL, qui est donc l'université catholique de Louvain, mais la flamande, hein, néerlandophone, par exemple, reçoit énormément de subsides au niveau européen. Alors, derrière tout ça, j'imagine qu'il y a différentes explications. Une explication, enfin, qui est évidente souvent, c'est la question de la langue. Nous sommes, malheureusement, en dépit du multilinguisme que nous que nous promouvons, nous sommes malheureusement fortement orientés vers l'anglais. Les discussions se font en anglais. Je crois que Olivier faisait référence à des discussions sur, par exemple, comment on crée tous ces topics. J'y reviendrai tout à l'heure. Et tout ça se fait en anglais. Donc, c'est venu vraiment la lingua franca que nous utilisons. Une autre chose, c'est certainement la proximité géographique. Quand vous êtes à Bruxelles ou quand vous êtes à Leuven, c'est plus facile de rendre visite aux fonctionnaires européens que si vous êtes un peu plus loin. Et puis je pense que aussi il y a, je crois, les questions un peu d'habitude qui font que voilà, c'est un peu compliqué forcément de coopérer. Et je pense qu'il y a un quatrième élément aussi qui m'a beaucoup frappé, au moins dans les discussions que j'ai avec beaucoup de collègues français, c'est évidemment la très grande évolution du paysage institutionnel français au cours des dernières années, qui fait que je crois que beaucoup d'entre vous ont consacré beaucoup plus de temps à savoir où ils étaient en France plutôt qu'à savoir où ils étaient en Europe, pour dire ça de manière simple. Donc, je crois que ça a été très frappant et que donc, forcément, les gens n'avaient pas forcément le temps de se consacrer à des histoires européennes. Donc, ça, c'est un élément important. Alors, le troisième élément que je voudrais donner en guise d'introduction, c'est effectivement un peu comment tout cela se fait. Je vais vous présenter tout à l'heure donc, des topics, des choses comme ça. Évidemment, les gens se demandent, mais comment tout ça se fait ? Alors, au niveau européen, on a un système un petit peu compliqué et que je compare parfois, vous savez, au modèle de la poubelle en decision making, en sciences politiques, qui est de dire que bon, ben, c'est un processus assez compliqué avec tout un tas de gens qui sautent dans la poubelle à tout moment. On sort des trucs, on rentre des trucs, etc. Et puis on arrive quand même à un résultat qui est plus ou moins bon, ça dépend, et qui fait que c'est assez compliqué. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, si vous voulez, c'est que nous, en tant que Commission européenne, à titre institutionnel, nous avons le pouvoir d'initiative, c'est-à-dire que nous venons, à un moment ou à un autre, au début de ce processus, avec une proposition. Nous disons, voilà, nous avons autant d'argent, nous avons actuellement, dans le défi sociétal numéro 6, nous avons plus ou moins 60 millions, enfin 50, 55, 60 millions par an à proposer pour des appels. Et nous disons, voici nous ce que nous proposons. Et ces propositions-là, faites par nous, sont des propositions qui en fait dépendent à la fois de choses que nous avons faites historiquement. Par exemple, nous avions travaillé sur tel aspect il y a 4 ou 5 ans. Il est temps d'y revenir parce qu'il faut continuer à promouvoir de la science là-dessus. Ça dépend également de circonstances politiques. Donc, c'est-à-dire que nous avons des influences politiques qui nous disent ben maintenant, il faut travailler sur le terrorisme et la radicalisation, etc. etc. Donc, et après, nous, on fait cette proposition, et cette proposition-là est ensuite envoyée, si vous voulez, dans différentes directions. Nous avons ce qu'on appelle un expert advisory group, qui est un groupe des experts de conseil, je ne sais pas quelle est la traduction française, qui sont d'experts de haut niveau avec notamment donc, des Français, qui est représenté actuellement, donc il y a deux Français, dont un de l'école française Extrême-Orient, qui nous donnent des conseils, nous disent oui, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, mais ce n'est pas vraiment ça, il faudrait élargir ou au contraire, il faudrait concentrer l'écriture de votre topic. Et puis, nous avons également beaucoup de contacts avec ce qu'on appelle le comité de programme où sont représentés les États membres. Et ça fait partie, c'est une chose classique en Europe, c'est ce qu'on appelle la comitologie, c'est-à-dire que la Commission est systématiquement, si vous voulez, sous le contrôle bienveillant des États membres qui, eux, nous donnent Et donc ça, c'est le ministère de la Recherche, aidé par des experts venant du CNRS, venant d'autres organismes de recherche, qui vient nous dire, ben voilà, nous avons lu votre proposition, on est content de ceci, on n'est pas content de cela, etc. Et ça, ça fait donc un discours à 28, puisque les 28 États membres sont représentés, plus ce qu'on appelle les États associés, comme par exemple la Suisse ou Israël, qui aussi donnent leur grain de sel. Et on a plus ou moins 36 personnes multipliées par 2, donc ça fait 72, comme on dit à Bruxelles, 72 personnes, plus nous, plus tous les autres qui interviennent. Donc, et comme disait Olivier, les deux personnes qui représentent la France au comité de programme, elles-mêmes sont en contact avec d'autres personnes derrière, comme Bazudeb qui est là, ou avec Olivier. Et donc, vous comprenez que tout ça, c'est un truc assez grand. Si vous multipliez ces 36 pays avec plus ou moins une dizaine de personnes derrière, plus les experts que nous-mêmes nous consultons. Donc, ça fait déjà pas mal de monde. Donc, on arrive à un résultat qui est donc un résultat parfois un peu surprenant parce qu'en cours de route, il peut y avoir des influences politiques, hein, très, très claires, ou des événements. Notre dernier programme de travail, par exemple, ne contenait rien sur la radicalisation jusque janvier. Et c'est clair qu'on a été, comme on dit dans notre jargon, fortement impacté par les événements du mois de janvier et février au Danemark et en France. Donc tout ça aussi, oui, fait un système assez complexe, mais qui a, je crois, l'avantage d'être quand même pas mal discuté. D'autant plus que les différentes versions du texte sont facilement accessibles à travers donc à travers les États membres. Donc tout ça est amplement discuté et nous recevons tous les jours des suggestions pour changer ceci, améliorer cela, etc. Donc voici un peu sur le processus. Je voulais vous donner ces quelques éléments de comment dirais-je de contexte pour que vous compreniez un petit peu comment tout ça se passe. Alors, ce que je vais faire, donc j'ai préparé une présentation qui, vous allez le voir, évidemment, est en anglais, parce que c'est une présentation de base que l'on utilise pour tout un tas donc de circonstances où on va à l'étranger, où on est invité à Bruxelles et on essaie de faire cette présentation-là. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler donc d'abord du défi sociétal numéro 6. Et puis ensuite, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'intégration des sciences sociales et humaines, dans l'horizon 2020. Alors, juste avant de dire ça, je crois il est important pour vous que je dise une chose, c'est que lorsque vous prenez Horizon 2020, qui peut être un élément relativement complexe, il y a pas mal d'occasions pour les sciences sociales et humaines de poser candidature. Alors d'abord, sachez qu'il y a ce qu'on appelle le European Research Council, ou l'ERC. Et là, dans l'ERC, sachez que le montant pour les sciences sociales et humaines pour la période 2014-2020 est plus ou moins de 2 milliards 4. C'est pratiquement multiplié par deux par rapport à la programmation précédente. Donc, il y a énormément de possibilités dans ce domaine-là. Je crois que le taux de succès dans l'ERC, dans les sciences sociales humaines, c'est plus ou moins 9%, si j'ai bon souvenir. Donc, c'est assez concurrentiel, mais il y a beaucoup de possibilités et c'est relativement simple. C'est relativement simple parce que, grosso modo, vous avez une idée, vous avez un programme de recherche, vous pouvez y aller le présenter sans plus de complications. Donc, c'est relativement simple. Il y a une autre chose qui est assez intéressante, et que je vous recommande fortement de voir, mais là qui exige des réseaux et donc de la coopération à l'intérieur de l'Europe avec au moins deux autres pays, c'est ce qu'on appelle les bourses Marie Curie. Sauf évidemment si vous allez à titre individuel, mais autrement, les bourses Marie Curie permettent également de créer des réseaux européens. Et ça, c'est très utile pour créer du lien, parce que dès que vous réussissez à créer du lien un peu institutionnalisé avec d'autres personnes, ça vous met le pied à l'étrier pour ensuite faire d'autres propositions au niveau européen, que ce soit à la Commission européenne ou dans d'autres types de financements, notamment les financements privés. Donc ça, c'est important. Et puis, finalement, vous avez le défi social numéro 6 dont je vais vous parler parce que j'en suis principalement responsable. Et puis, on aura donc quelques éléments sur l'intégration des sciences sociales et humaines. Alors, dans ce défi social numéro 6, qui est celui qui vous intéresse principalement, vous voyez qu'en fait, on a une division par grands domaines. Là, vous avez quatre grands domaines là, qui sont donc devant vos yeux. Et
c'est que les 50 millions.
Oh, pardon, excusez-moi.
Fois
voilà,
7,
voilà.
350 millions.
Qui sont maintenant devant vos yeux. Et qui sont donc ces quatre grands domaines que l'on avait définis au fur et à mesure, donc avec les États membres, avec les experts. Et comme vous voyez, le premier est davantage orienté vers ce qu'on appelle, je dirais, les politiques d'innovation, qui correspondent à la grande problématique européenne, qui est comment toutes nos idées, comment toute notre production intellectuelle, notre production de recherche peut notamment être transformée en produits innovants. Donc ça, c'est la grande problématique avec les États-Unis et plus récemment avec donc des pays émergents. Et donc, ceci, je vais en revenir là-dessus rapidement pour vous donner tout à l'heure les titres. Le deuxième grand cadre, ce sera la question des inégalités, sur lequel nous avons travaillé au niveau européen de manière assez forte déjà, et je voulais vous dire tout à l'heure un peu comment on envisage ça. Évidemment, la question de la place de l'Europe dans le monde, ça c'est important, et là, évidemment, on espère, on attend beaucoup que du côté français, il y ait une forte implication à ce niveau-là. Et puis le dernier qui s'appelle Comprendre l'Europe, est un titre un petit peu, je dirais, générique pour surtout signifier que c'est un peu plus la question, je dirais, des sciences humaines. Où on essaye quand même de défendre un peu la question des sciences humaines, et je reviendrai là-dessus également. Alors, sachez, déjà pour commencer, que tout ce que je vais vous dire est déjà disponible sur le web, c'est déjà donc sur le site d'Horizon 2020, à l'adresse donc, qui est devant vos yeux, et c'était publié il y a déjà 2 semaines, aux environs donc, du 9 septembre, si j'ai bon souvenir. L'adoption formelle se fera le 14, mais l'information est déjà disponible. Donc vous pouvez déjà lire, réfléchir, contacter des collègues, discuter, etc., etc. Alors, je parlais tout à l'heure un peu de la dimension politique de tout ça. C'est vrai que nous essayons, c'est un peu notre cheval de bataille, enfin, nous avons 2 chevaux de bataille hein, à la Commission dans notre domaine. Le premier, c'est l'interdisciplinarité, définie de manière large, hein, je ne reviens pas sur les détails de tout ça, mais nous essayons de dire qu'un problème mérite plusieurs approches. Hein. Que si on parle du chômage, ben ça vaut le coup de mettre, par exemple, non seulement des sociologues dessus, mais également des économistes, des anthropologues, d'autres personnes qui peuvent avoir des points de vue là-dessus. Et donc, on essaye de renforcer, nous, et de pousser à l'interdisciplinarité ou au moins à la collaboration, hein, quels que soient les niveaux qui sont là. L'autre chose qui est très forte chez nous, c'est la pertinence politique. On essaie souvent, on parle dans notre jargon de « policy relevance ». Et donc, on essaie de faire en sorte qu'on ne fasse pas simplement de la science pour la science ou de la recherche pour la recherche, hein, ou de la recherche pour améliorer des CV, mais en fait aussi, on essaie de faire de la recherche qui ait un impact sur la manière de faire les politiques publiques. Alors ça, c'est très important, c'est très, très important. Je comprends bien tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière tout ça. 1, parce que c'est un métier différent. 2, parce que vous risquez de me dire, mais on risque de vendre notre âme derrière ça. Mais je crois quand même qu'un des éléments importants, c'est comment les sciences sociales et humaines sont perçues en dehors d'elles-mêmes. Et comment elles sont perçues en dehors d'elles-mêmes est extrêmement important pour nous, parce qu'en fonction de la manière dont elles sont perçues soit comme des choses importantes, soit comme des choses inimportantes. Or, vous savez, inimportante, non, ça c'est de l'anglais, pas importante en tout cas, ou moins importante. Et donc, ça c'est très important, parce que dans tout le... Vous devrez être conscient d'une chose très, très, très vraiment essentielle, qui est qu'actuellement, les sciences sociales humaines sont quand même sur la sellette. Et qu'il faut donc les défendre, et que donc la manière dont elles contribuent, en quelque sorte, à des fonctionnements sociaux, sociétaux, politiques, au sens plus large, est importante. Donc on doit se montrer, on fait des choses extrêmement importantes, on a énormément d'impact, mais on ne le montre pas. Donc une des choses que nous voulons, c'est dire... Ce que font les sciences sociales humaines. Et ça, c'est vraiment un cheval de bataille obsessionnel que nous avons. Alors, je vous passe un certain nombre de détails de cette présentation. Donc, ceci représente un tout petit peu ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur la variété des intervenants hein, et tous les gens qui interviennent, je dirais, dans tout ce processus, qui est un processus... Là, donc, ça vient d'être publié là, donc, au mois de septembre et ça avait commencé 1 an auparavant. Donc, on discute fortement pendant 1 année sur tous ces projets-là. Et vous voyez ici que j'ai également cité là, les différentes directions générales qui interviennent. Et vous voyez que donc, alors, les acronymes ne vous sont pas familiers, mais là, vous avez les gens qui sont dans des technologies de l'information et de la communication. Vous avez les gens qui interviennent évidemment dans les affaires intérieures, dans la justice, dans les droits fondamentaux, la taxation, etc., etc. Alors, le programme de travail de cette année, donc, qui court sur les 2 années, pour 2016-2017, essaye de répondre à un certain nombre donc, de sujets un peu sensibles que nous avons en tête. Et donc, vous avez ici un certain nombre de titres qui vous paraîtront familiers. Si je prends maintenant le slide sur les appels et les budgets, vous avez plus ou moins donc une répartition ici de ce qui se fait. Vous verrez que dans notre domaine, nous avons également des choses un peu plus variées qui ne sont pas du tout des sciences sociales et humaines. On dépense, par exemple, dans notre domaine également de l'argent pour les PME hein, qui interviennent donc de manière innovante. Et ça, donc, c'est une obligation qui nous a été imposée par le Parlement et le Conseil au moment de la décision pour que nous aussi, nous puissions contribuer à un rapprochement donc, avec les PME. Alors, Je ne vais pas aller dans le détail, évidemment, de chaque appel. Le premier appel, donc, c'est l'appel de la co-création. Alors, vous avez devant vous donc les différents titres, et je vais déjà vous montrer donc les deuxièmes, la deuxième partie donc, de ce call. Alors, vous voyez qu'en fait, ici, vous avez différents titres qui vous montrent un petit peu ce que l'on fait en matière donc, de co-création ou en matière d'innovation. Au niveau donc, de la Commission européenne, nous essayons de consacrer pas mal de moyens pour essayer donc de réfléchir à ce qu'est l'innovation, comment elle fonctionne et comment elle ne fonctionne pas, quels sont les meilleurs exemples, comment on peut imiter ou ne pas imiter, etc., etc. Et puis, quels sont aussi les éléments institutionnels, évidemment, qui concourent à la création ou à l'innovation. Et pourquoi, par exemple, nous avons des difficultés, dans certains cas, dans certains domaines, à innover. Derrière tout ça, il y a évidemment la grande question de quelle est la base industrielle de l'Europe. Donc vous voyez que, alors, et puis ceci dit, si vous prenez donc ce deuxième exemple, là vous avez des choses je dirais, qui sont également liées à la question des big data, de comment on collecte les données, etc., etc. Le deuxième appel, c'est l'appel sur les inégalités. Alors là, vous verrez le détail vous-même de ce qui est fait. Alors, ce qu'on a voulu éviter de faire, c'est d'essayer de répéter un certain nombre de travaux qu'on a déjà faits sur les inégalités et qui sont déjà faits ou vont être faits ou vont être améliorés. Donc, on voudrait pas refaire du Piketty, par exemple, si je peux m'exprimer de manière un peu abrupte comme ça. Non pas parce que c'est pas bien, au contraire, c'est très très bien, mais il le fait tellement bien qu'on va pas faire la même chose que lui ou le refaire. Et on va pas avoir des prétentions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a proposé deux choses. On a proposé une première chose qui est d'abord d'essayer de repenser l'égalité. Alors, on n'est pas les seuls à le faire, loin de là. Et on essaye beaucoup, on espère beaucoup qu'un tas d'experts français qui réfléchissent à l'égalité, suivez mon regard, pourront effectivement s'impliquer là-dedans. Et donc ça, c'est une question, hein, c'est essayer de repenser l'égalité. Ça veut dire quoi dans des démocraties, l'égalité? Et puis l'autre élément qui est assez important pour nous, c'est de repenser les liens entre l'égalité et un certain nombre d'autres phénomènes. Vous saviez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce bouquin qui avait été publié il y a The Spirit Level, il y a quelques années, c'était Wilkinson et Pickett, je crois, je ne me rappelle plus très bien comment. Non, Pickett, c'est ressemble trop à Piketty. Ça va être autre chose. C'était Wilkinson et je ne sais plus comment, cette dame-là. Et donc, ils avaient publié un bouquin assez intéressant sur les liens entre les inégalités et un certain nombre de phénomènes en disant, ben voilà, on s'aperçoit que dans les sociétés fortement inégalitaires, on a tout un certain nombre de problèmes économiques et politiques. Et une des questions fondamentales, c'est également la question de quelle est la naturalité, je dirais, des inégalités et quels sont leurs impacts. Et donc, nous, on voudrait réfléchir un peu à cette question-là, ou demander aux chercheurs, parce que nous ne faisons rien nous-mêmes, mais demander aux chercheurs de penser quel est le lien, par exemple, entre inégalité et pratique démocratique. Est-ce que les sociétés inégalitaires, par exemple, sont moins démocratiques et comment que d'autres? Donc, ça, c'est un peu ce à quoi on veut réfléchir. Et les topics que vous avez, ou les titres que vous avez devant vos yeux, répondent un peu à cette question-là. Essayez de creuser un peu cette question sur les inégalités. Alors, il y a parfois des choses un peu moins banales que ce que je viens de dire, en fonction donc des discussions qui ont eu lieu. Alors, la troisième chose, donc, ça s'appelle l'engagement de l'Europe dans le monde. Alors là, vous avez des choses qui sont soit, je dirais, stratégiques, c'est-à-dire que nous, la question que nous nous posons, qui, vous le voyez, est d'actualité, est de dire, mais quelle est la capacité de l'Europe dans le monde en matière diplomatique, hein. Et donc, notre question à nous, c'est de réfléchir sur, je dirais, les capacités diplomatiques au sens très large, hein, de l'Union européenne et de l'Europe. Mais aussi, justement, ce que l'on veut, nous, c'est, puisque nous souhaitons être un acteur international, ce qui est important, justement, c'est de penser à travers les autres, c'est-à-dire de savoir ce qu'eux pensent de nous, ce qu'eux pensent d'eux-mêmes. Hein. Donc, il faut surtout éviter la question de la diplomatie européenne, gagnante. Il faut au contraire que l'on passe par des schèmes intellectuels beaucoup plus différents où on sait où on va, hein, et on sait ce que les gens pensent. Et puis, vous verrez que nous avons également donc des topics qui sont des topics spécialisés dans certains domaines, enfin spécialisés dans certaines régions, par exemple, donc comme l'Asie du Sud-Est ou la Chine ou le Pacifique pour cette année. Le dernier appel est un appel qui est, comme je vous l'ai dit, qui répond un peu plus aux sciences humaines, ce qui fait qu'il y a, là, il y a davantage de variété. Alors, vous verrez que vous avez des choses, par exemple, sur la cultural literacy, hein, bon, qui correspond à un domaine qui a beaucoup émergé donc, ces temps derniers. On a également des choses sur, vous voyez, les histoires contemporaines de l'Europe à travers la création artistique. Hein, on se demande, mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art européenne, par exemple ? Bon, est-ce que ça a un sens, d'ailleurs, de poser cette question-là ? On s'interroge, évidemment, sur les questions de religion et de tolérance. Mais on a des choses, je dirais, un petit peu plus, un peu moins banales, comme par exemple le patrimoine culturel maritime, hein, sur lequel on veut s'interroger, sur lequel on n'a pas suffisamment de recherches à notre goût. Et nous voudrions donc essayer de déclencher là une sorte d'appétit européen pour cela. Alors, je passe un peu sur les autres choses qui sont un peu moins pertinentes pour nous. Nous avons un certain nombre donc, d'actions qui complètent ça, mais vous le lirez de près. Je voudrais simplement vous dire quelques mots maintenant, pour finir, sur la question de l'intégration des sciences sociales et humaines. Alors, comme Olivier le disait très justement, il faut éviter, je crois, simplement de se dire « Ah ben voilà, il y a un truc pour nous dans le défi sociétal numéro 6, et puis on ne s'intéresse à rien d'autre ». L'une des innovations assez intéressantes de Horizon 2020, c'est d'avoir dit, mais finalement, les sciences sociales humaines, c'est important, pas simplement dans les sciences sociales humaines et à travers la coopération des sciences sociales humaines, mais c'est intéressant également dans tout domaine. Donc, si vous pouviez, par exemple, mon directeur général cite souvent l'exemple du diabète. Il dit, le diabète, c'est pas simplement une question technologique où il faut essayer de trouver un médicament qui serait meilleur que l'insuline, etc. Mais c'est aussi une question, je veux dire, qui est fondamentalement sociale. Il faut donc se questionner pourquoi nous avons de plus en plus de cas de diabète dans nos sociétés modernes. Donc ça exige, ou ça demanderait en tout cas un questionnement de type social. Alors, on dirait certains types de diabète, ce n'est pas le cas, d'autres types, oui. Mais en tout cas, donc ça, c'est un exemple. Et puis après, si vous voyez le transport, nous avons un défi sociétal sur le transport. Bon, le transport, vous pouvez dire, bon, bah, c'est simplement le problème des gens de la RATP ou de la SNCF qui s'en occupent. Ben non. D'ailleurs, les gens de la SNCF, de la RATP, je peux vous dire, ils emploient énormément de gens des sciences sociales et humaines parce qu'ils ont besoin, évidemment, de réfléchir à quels sont les comportements des gens et à quel est leur environnement, même au sens plus large. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Et l'on voit que, évidemment, cette question qui appelle l'interdisciplinarité ou la coopération entre les sciences dures et les sciences sociales et humaines, pour faire court, cette question-là est une question extrêmement compliquée, très difficile, et qui exige des gens qu'ils sortent un peu de leurs habitudes. Alors, c'est très difficile pour les gens dans les sciences dures, c'est très difficile dans les sciences naturelles, c'est très difficile pour les gens dans les sciences sociales humaines, mais à la Commission européenne, nous avons décidé de pousser dans ce domaine-là, d'essayer de provoquer un peu la coopération. Alors, on va voir comment ça va marcher. Ça marche plus ou moins bien, mais on essaie d'aller dans ce sens-là, et en tout cas, on sait que c'est un effort qui va nécessiter, je dirais, beaucoup d'années. Alors, vous avez devant vous là un graphique qui essaye de montrer comment nous avons intégré les sciences sociales et humaines dans les Horizons 2020. Alors, très simplement, plus ou moins un tiers des topics de Horizon 2020 vont avoir un élément de sciences sociales et humaines. Donc, vous voyez donc la grande colonne devant vos yeux, ça c'est le défi social numéro 6 que je vous ai présenté, où par essence, par nature, je dirais, nous avons beaucoup plus de sciences sociales et humaines. Mais vous voyez que dans toutes les colonnes qui sont là devant vous, qui correspondent à des thèmes différents, comme donc la santé, comme l'environnement, le changement climatique, même également donc ce qu'on appelle donc les avancées industrielles, nous avons également des sciences sociales et humaines. Et je crois que même, vous voyez que l'espace, hein, en matière d'espace, nous avons réussi à mettre, évidemment, à intégrer les sciences sociales et humaines en disant que les sciences sociales et humaines doivent aussi travailler avec les spécialistes de l'espace pour essayer donc de faire de la recherche ensemble. Et donc ça correspond à plus ou moins 36% des topics en 2014-2015 et de nouveau 36% en 2016-2017. Alors, en pratique, ça plus ou moins bien marché. C'est-à-dire que si on compte, on a essayé de prendre un ensemble de critères, si on prend par exemple le critère de l'argent et qu'on essaie de voir combien d'argent dans ces topics ouverts à l'interdisciplinarité, combien d'argent est allé vers les sciences sociales et humaines, on s'aperçoit que le résultat n'est pas trop mauvais. Donc, vous voyez, le message, c'est de dire qu'en dehors du défi sociétal numéro 6, en dehors de l'ERC, en dehors des bourses Marie Curie, vous avez également donc des occasions de coopérer dans d'autres domaines et des occasions donc d'être financé et de coopérer avec d'autres personnes. Donc, ici, vous avez plus ou moins donc, les éléments, je dirais, chiffrés devant vous. Si vous voyez, évidemment, de nouveau par pays, vous voyez que de nouveau, là, on voit très bien un peu les différences. Et vous voyez de nouveau que là, les Anglais sont très actifs. Alors, ils ont l'avantage de la langue, comme je disais. Ils ont notre gros avantage, les Anglais, qui ont été fortement appauvris grâce au thatcherisme. Ce qui fait que, évidemment, étant appauvris comme ils l'étaient, il a bien fallu qu'ils se débrouillent. Et ils se sont donc fortement professionnalisés dans la filière européenne pour essayer donc de prendre de l'argent. Donc la moindre université britannique a effectivement un bureau européen dont le travail, avec plusieurs personnes évidemment, dont le travail est de collecter, de trouver de l'argent européen. Et donc ça a des résultats, comme vous voyez. Mais vous voyez également que les Allemands, de nouveau les Hollandais se débrouillent bien. Et les Italiens, dans la situation catastrophique dans laquelle se trouvent leurs universités, ont également décidé d'aller vers Bruxelles. Je vais finir donc bientôt. Ceci dit, pour vous dire que, quand même, en termes de qualité, nous avons quand même un souci, et nous essayons de beaucoup travailler là-dessus, c'est que cette intégration des sciences sociales humaines, c'est souvent faite, je veux dire, de manière pas forcément très satisfaisante, puisque les topics tels qu'ils étaient définis, les appels à coopération tels qu'ils étaient lancés, concernaient surtout, je dirais, les sciences économiques, les sciences du marketing. Alors là, il y a des grandes questions sur les sciences du marketing. Tout ce qui était également le droit, au sens large. Donc, c'était surtout eux, je dirais, qui ont coopéré, et donc peut-être de façon un peu trop instrumentale. Et donc, nous sommes inquiets de cette tendance et nous voulons donc la changer. Et c'est pour ça que dans les topics que vous verrez en 2016-2017, nous avons fait des choses un peu plus fouillées, un peu plus étudiées, pour faire en sorte que nous puissions avoir de véritables coopérations entre les sciences sociales humaines et les autres sciences. Et cette coopération soit une coopération aussi relativement, je dirais, plus égale. Il y a une véritable contribution. Pas avoir les sciences sociales humaines comme simplement une excuse ou ce qu'on appelle un add-on en anglais pour donner excuse que nous faisons d'interdisciplinarité. Donc, nous avons essayé donc d'améliorer tout ça. Et vous voyez qu'au total, lorsque nous avons défini un certain nombre de critères pour savoir si cette coopération était satisfaisante ou pas, nous avons donc pour nous un élément qui nous dit que c'est satisfaisant dans 40% des cas, mais que dans même 30% des cas, par exemple, nous n'avons pas de coopération entre les sciences sociales humaines et les autres sciences, alors que nous avions appelé cela, et ceci a quand même été financé. Donc, vous voyez qu'on demande des choses et ces choses ne sont pas faites. Donc, ça implique pour nous de faire un effort supplémentaire. Vous avez là donc juste devant vous quelques éléments qui vous permettront un peu de voir ce qui se passe. Voilà ce que je vous disais donc sur les différentes disciplines qui sont appelées à travailler. Alors vous voyez quand même que la psychologie est appelée à travailler, mais vous voyez que la sociologie, par exemple, les sciences humaines au sens large, ou tout ce qui est la culture, l'histoire, n'est pas présente. Et donc là, nous avons, nous, un problème.
Je regarde.
Nous avons un problème. Voilà, nous avons un problème important à résoudre. Hein? Donc, alors c'est bien. Prenons ça avec humour, mais prenons ça aussi avec détermination. Et je le dis à moi d'abord. Hein? Je le dis pas à vous. Hein? Je le dis d'abord à moi. Parce que nous, c'est notre travail à nous, d'abord la Commission européenne, avec l'aide d'Olivier, avec d'autres personnes, d'essayer d'améliorer la situation. Alors, je crois que ça montre aussi un peu le tropisme de certaines disciplines ou de certaines habitudes, etc., qui font que ce n'est pas facile pour les historiens, forcément, de se lancer dans des coopérations. Mais en même temps, il y a d'excellents exemples de coopération entre les historiens et les sciences dures. Je pense, par exemple, à l'histoire du changement climatique. Alors, je vais laisser, parce que je crois que j'ai pris trop de temps, vous aurez avec vous les différentes informations qui vous seront utiles pour savoir un peu ce qui se passe. Je vous laisserai de toute façon cette présentation parce qu'elle vous permet d'avoir, je dirais, les éléments. Évidemment, je serai à disposition si vous avez des questions, soit à travers d'autres personnes qui sont là, soit directement, hein, parce que je comprends que pour beaucoup d'entre vous, c'est un tout petit peu nouveau. Et ce qui est important, ceci dit, mon message à moi, c'est de vous dire qu'il faut y aller. Hein, il faut vraiment que vous, comme disait Olivier, que d'abord, vous y allez peut-être doucement, mais que vous y alliez. Basez-vous sur les réseaux que vous avez. Essayez de voir si, parce que tout ça a forcément une connotation européenne, essayez de voir avec qui vous coopérez à l'étranger. Essayez de voir qui sont les gens qui déjà participent à ces projets parce qu'eux ont une habitude et ils ont un savoir-faire sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et l'autre chose donc, que je recommande fortement, c'est que vous vous proposiez également comme expert évaluateur. Tous les projets dont je vous ai parlé sont des projets qui sont évalués par des pairs. Ce n'est pas moi ni mes collègues de la commission qui décidons. Nous soumettons ça à des pairs avec donc des évaluations à double détente qui sont faites d'une part ce qu'on appelle à distance, donc individuellement. Chaque projet est vu par trois évaluateurs. Ces évaluateurs ensuite se rassemblent à Bruxelles et ont une discussion en commun et donc font ensuite, je dirais, une évaluation de tous les projets comparés et on finit par avoir les meilleurs projets qui seront financés, etc. Et pour ça, donc, c'est une excellente école de formation parce qu'en faisant ce genre de travail comme expert, qui est un travail rémunéré, qui plus est, vous avez une excellente expérience de ce qui se passe au niveau européen. Et je vois donc certains collègues ici qui ont déjà été experts ou qui ont été ce qu'on appelle observateurs indépendants. Ils pourront éventuellement témoigner de l'intérêt qu'il y a à faire ce genre de travail. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long et peut-être un peu déstructuré, mais je voulais essayer d'être un peu complet. Merci.
Merci beaucoup, Philippe Kirodren. Nous avons tous été un peu trop longs, donc je crois qu'il faut que nous passions rapidement la parole à la deuxième table ronde. Merci encore à tous les...